Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Il est 13h à Melbourne, soyez les bienvenus, c'est Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure sur votre radio, SBS Audio, votre programme en français. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports, puis la rétrospective du 20 mai avec Valentine Saboureau qui nous parlera de Amelia Earhart, la première femme à avoir réalisé un vol transatlantique en solo. Puis nous prendrons des nouvelles de l'Alliance française de Canberra avec Jean-Noël Ducasse. Et Christophe Mallet a reçu Serge Thomas au sujet de la disparition de William Mora. Mais tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres de ce samedi 20 mai. Le Premier ministre Anthony Albanese est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées et de logements publics dans l'état du Victoria. Avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement un sommet de la Ligue arabe. Comme je vous le disais en titre, le Premier ministre Anthony Albanese est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima au Japon, où à peine arrivé, il a appelé à la paix en Ukraine.
We know the consequences because we see them right here. And in recent times, with Vladimir Putin's irresponsible threatening of the use of nuclear weapons as well, it's a reminder that the world has to be vigilant and we have to step up the campaign against nuclear weapons.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie occupe le devant de la scène au sommet du G7. De nombreux dirigeants, dont M. Albanese, condamnant les actions de la Russie et imposant de nouvelles sanctions. Les États-Unis ont annoncé qu'ils imposeraient 300 sanctions visant 70 entités russes, tandis que le Premier ministre britannique a déclaré que le Royaume-Uni ciblerait les importations russes de diamants, de minéraux et de technologies militaires. Toujours au G7, un déplacement que l'on n'attendait pas, Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine, s'invite au sommet à Hiroshima. Vincent Souriau pour RFI.
La matinée de vendredi s'est ouverte sous le signe du recueillement. Accueilli par l'hôte de ce sommet, le premier ministre japonais Fumio Kishida, les dirigeants du G7 se sont rendus à pied au mémorial de la paix d'Hiroshima, un ensemble de monuments dédiés aux victimes de la bombe atomique. Ils y ont déposé une couronne de fleurs, s'y sont entretenus avec une survivante du bombardement avant d'entrer dans le vif du sujet, la guerre en Ukraine. Sur ce thème, il n'y a pas de débat. Unanimité des membres du G7 qui réaffirment leur soutien indéfectible à l'armée ukrainienne et valident de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Embargo sur les diamants russes et sur les métaux comme le nickel, le cuivre ou l'aluminium, charge à chaque pays de mettre en œuvre ses mesures à son rythme. La surprise du chef est venue d'Ukraine. Volodymyr Zelensky, qui ne devait intervenir qu'en visioconférence, va bel et bien faire le déplacement en personne au Japon après une escale en Arabie Saoudite. Il est attendu à Hiroshima au plus tard dimanche matin. Vincent Souriau, Hiroshima RFI.
Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées et de logements publics dans l'état du Victoria. Le ministre du Logement, Colin Brooks, a annoncé vendredi l'augmentation du financement pour étendre le programme existant d'aide au logement privé dédié aux aborigènes, investissement d'un montant de 5,4 millions de dollars. Le programme couvre à la fois les locations privées et les logements sociaux et implique des organisations communautaires contrôlées par les aborigènes qui viennent en aide des personnes sans domicile. À partir du mois de juillet, le programme sera étendu à 4 nouvelles zones, dont Goulburn, Outer Gisborne, Brisbane, Melton et Bayside Peninsula. Le gouvernement Andrews a également approuvé un programme pilote permettant aux locataires aborigènes de logements sociaux de transférer la gestion de leur location de Homes Victoria à un fournisseur de logements communautaires. Claire Nowland, 95 ans, reçoit des soins de fin de vie à l'hôpital district de Cooma, en Nouvelle-Galles du Sud, après avoir reçu deux coups de taser par la police dans une maison de retraite. Le personnel de la maison de retraite Wela Mbembi Lodge a appelé la police après que la femme atteinte de démence a pris un couteau de cuisine. Le commissaire adjoint Peter Cotter a déclaré vendredi que la police et les ambulanciers avaient tenté de faire tomber le couteau de Madame Nowland avant qu'un agent de police ne tire une fois avec son taser alors qu'elle s'approchait lentement d'eux. On écoute la réaction du chef de l'opposition, Peter Dutton.
Well, I've been a long time since I was a police officer. In fact, it was in the black and white days where there were no tasers, so not my area of expertise. But obviously, any report of a 95-year-old being tasered would shock anyone. And I haven't seen the facts of what's happened or the circumstances of it. But obviously, the public would want an explanation, and I hope it's forthcoming soon.
Avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement un sommet de la Ligue arabe. Les dirigeants de la région ont entamé leur 32e réunion annuelle avec un invité surprise, le président ukrainien, qui a accusé certains d'entre eux de fermer les yeux sur l'invasion russe. Parmi les participants, un invité qui fait partie de ceux qui ferment les yeux, le président syrien Bachar al-Assad, présent pour la première fois depuis plus de 10 ans. Il avait été exclu de la Ligue arabe pour avoir réprimandé son propre peuple alors que la guerre dure depuis plus de 12 ans en Syrie. L'organisation PAM-arabe a décidé de réintégrer le régime de Damas et a réservé un accueil chaleureux à Bachar al-Assad. Muriel Paradan pour RFI.
Embrassade, poignée de main, Bachar el-Assad est accueilli chaleureusement au sommet de la Ligue arabe à Djeddah. Des images le montrent conversant tout sourire avec son homologue tunisien ou avec des responsables émiriens. Après des années d'isolement, le président syrien est de retour et plaide pour une nouvelle phase dans la coopération arabe.
Il y a un espoir supplémentaire dans le rapprochement arabo-arabe ainsi qu'arabo-régional et international, apporté par ce sommet qui, je l'espère, marquera une nouvelle phase dans la coordination arabe et la solidarité entre nous, ainsi que la paix et la prospérité dans notre région au lieu de la guerre et de la destruction.
La guerre en Syrie, qui dure depuis plus de 12 ans, a morcelé le pays, fait des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Dans les zones qui échappent encore au régime, des centaines de Syriens ont manifesté pour dénoncer la participation de Bachar el-Assad au sommet de la Ligue arabe.
Direction la Grèce, où se dérouleront les élections législatives dans quelques heures. C'est ce dimanche que les électeurs sont convoqués aux urnes. La question du système de santé national est au centre des débats et affichée comme une priorité par les principaux partis en lice. Outre des problèmes de budget et de gestion, l'hôpital public a connu une hémorragie. En effet, plus de 15 000 personnels médicaux ont quitté le pays lors de la crise économique qui avait frappé le pays. Le Covid a fini d'épuiser le système médical qui a grand besoin d'être renforcé et réformé. À Athènes, Joël Bonner pour RFI.
Un des problèmes principaux dans le secteur de la santé publique grecque, c'est la difficulté à assurer la continuité des soins, dont les personnes âgées ont pourtant particulièrement besoin. À l'image de Vassiliki, abrité dans un foyer athénien de Médecins du Monde, qui souffre notamment d'importants problèmes respiratoires.
Depuis 2010, dans les hôpitaux grecs, la situation se détériore et la qualité des services de soins diminue. Comme vous le savez, beaucoup de personnels médicaux sont partis à l'étranger, en France, en Angleterre, etc. Les salaires ont baissé et les hôpitaux n'embauchent pas, alors qu'il manque de personnel. Résultat, les docteurs et les infirmières en place effectuent 2 à 3 fois le nombre d'heures de base avec des salaires extrêmement bas, comment peuvent-ils bien travailler dans ces conditions?
À l'heure des législatives, les conservateurs de Nouvelle Démocratie, actuellement au pouvoir, indiquent vouloir créer 10 000 postes de personnel médicaux. Syriza, principal parti d'opposition, veut lui augmenter les salaires des médecins. Il y a en tout cas unanimité. En Grèce, le système de santé publique doit être réformé. Joël Bronner à TNRFI.
Et on fait tout de suite le point sur la météo de ce samedi 20 mai. On commence tout de suite par la ville de Perth, où le soleil est prévu et 23 degrés au thermomètre. On continue du côté d'Adélaïde, des averses donc prévues parapluie et Kawaii, 17 degrés prévus, Melbourne, pluie par intermittence et seulement 14 petits degrés, à Hobart, pluie prévue en fin de journée, 14 degrés également, à Canberra, placé sous les nuages et seulement 13 degrés, du côté de Sydney, soleil 19 degrés, Brisbane, prévu du soleil 22 degrés, Cairns, 28 degrés et soleil et Darwin, un très beau temps également pour un maximum de 31 degrés. Tout de suite le rappel des titres de ce samedi 20 mai. Le Premier ministre Anthony Albanese est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées de logements publics dans l'état du Victoria. Et avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement le sommet de la Ligue Arabe. Passez un excellent après-midi, bon appétit si vous êtes encore à table avec le programme français de SBS.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tout de suite, c'est votre journal des sports et on fait le point sur le Tour d'Italie. Trois cols devaient être au programme de la 13e étape du Giro 2023, ce vendredi 19 mai, entre Borgo Franco d'Ivrea et Cross Montana. Mais la météo a eu raison du Grand Saint-Bernard. C'était le grand rendez-vous alpestre de la deuxième semaine, mais il a pris du plomb dans l'aile. Décidément capricieuse, la météo a eu raison du parcours de la 13e étape et l'organisation a jugé raisonnable de raccourcir cette dernière en l'amputant de 130 km. Les coureurs ne s'étaient donc pas élancés du grand col Saint-Bernard comme c'était prévu, mais la ville de Chables. On écoute Didier Chanel, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën.
Didier, une équipe AG2R Citroën offensive avec la 5e place de Valentin Paré-Peintre. Et quel bilan dressé de cette journée ?
Déjà hier, on avait deux coureurs qui étaient à l'avant, Alex Baudin et puis toujours notre Valentin Paré-Peintre. Aujourd'hui, donc, Valentin est crânement reparti à la guerre et a repris d'entrée la volonté d'aller dans l'échappée sur une étape qui lui va bien, une étape de grimpeur, un final qui lui convient bien. Voilà. Après, il avait pour objectif de faire un résultat. Hein. Il était un peu déçu déjà hier de faire que 13e en ayant pris l'échappée. Aujourd'hui, il voulait montrer qu'il était capable de faire bien mieux. Donc, il a fait une belle montée, il s'est bien battu. Alors sûrement un peu l'échappée d'hier aussi dans les jambes, mais voilà, il a réussi quand même une belle performance en prenant une 5e place et ça fait plaisir de voir Valentin qui progresse pour son premier grand tour. Il récupère bien, il est déjà présent aux arrivées dans un top 5 sur un Giro vraiment pas facile dans les conditions météo après avoir été échappé hier, donc c'est tout bénef, c'est tout bien pour notre petit jeune Valentin.
Aurélien Paré-Peintre de l'équipe AG2R Citroën a réussi l'exploit de la fratrie en remportant la 4e étape du Tour d'Italie il y a une dizaine de jours. Son petit frère et coéquipier Valentin a fait une très belle 13e étape en signant une performance arrivant 5e. Valentin Paré-Peintre.
La plus courte, c'est la plus dure, vous dites, Valentin.
Ouais, c'est court, mais c'est intense. C'est deux efforts de 40 minutes à bloc à la limite du rupteur ou... C'est vraiment pénible. C'est pas un effort. Enfin, c'est un effort que j'aime, mais que j'aime pas faire. C'est très dur. Et la montée finale, c'était difficile dans la tête. J'étais tout seul et c'était difficile de s'accrocher pour aller chercher la place devant le groupe des leaders. Et j'ai réussi, donc je suis content. J'étais un peu frustré hier. Aujourd'hui, 5e, ça me convient.
Vous montrez à l'avant hier, vous montrez à l'avant aujourd'hui. Dans ce groupe, quand vous êtes 5, comment ça se dessine ? Qu'est-ce qui se dit entre vous ? Comment vous voyez les forces en présence ?
J'ai vu Derek qu'ils étaient déjà plus forts que moi, comme ils m'avaient lâché dans le premier col. Après, dans la descente, Thibaut il m'a dit de calmer, mais bon, pour moi, j'ai pas pris de risque. Je me suis fait plaisir. En bas, je lui ai directement dit que j'allais pas forcément relayer beaucoup, hein, comme il allait sûrement passer devant mon frère au classement général. Je lui ai dit que je passais pour essayer de ne pas désorganiser le groupe et qu'on aille loin. Après, Cepeda n'était pas du même avis. Il nous a un peu embêtés, c'est dommage parce qu'on a perdu quelques secondes précieuses. Mais à tourner à 5, ça ne coûtait pas beaucoup de force et ça allait vite.
C'est un spectacle de dingue, Valentin. C'est ça, les grands tours. Et ça, cette étape de montagne, c'est ce que vous regardez aussi petit. C'est un spectacle. Bingo.
Ouais, c'est un truc de dingue. Après, aujourd'hui, on n'a pas forcément offert le spectacle qu'on devait offrir à la base. Donc, ouais, j'étais un peu déçu forcément pour tous les spectateurs qui étaient dans le col du Grand Saint-Bernard. C'est triste. Je me mets à leur place d'avoir fait le déplacement et de voir passer les coureurs dans le bus. C'est triste. Après, voilà, ce matin dans le bus, je pense que c'était compliqué. C'est aussi une accumulation de plusieurs jours de pluie. On a eu que 2 jours depuis le début du Giro où on n'a pas eu de gouttes en comptant le premier prologue. Donc voilà, c'est difficile et tout le monde est fatigué.
Du côté de l'Australien Jack Egg, ça a été une journée difficile.
We spoke this morning and you said you weren't feeling 100%. So it looked like a very tough day in the office, mate.
Yeah, I was pretty sore today, to be honest. I didn't really want to admit it to myself when I woke up this morning, but I saw the replay of the crash and I obviously experienced the crash myself. And I'm quite sore and just didn't quite have it today.
The conditions ended up not being as dramatic as what it seemed this morning. So at least that was one plus, I suppose.
Maybe, yes. We did have dry roads, but I think the tarmac of the descent off the climb that we started was maybe a little bit on the limit of what should be acceptable in a Grand Tour. But everyone got down there safely and we can continue going forward.
You know, we spoke about that. I thought it was on the other side of the limit. I thought that was that should not be in a Grand Tour.
Maybe you're correct, but I'll say that it was maybe on the limit.
But you still got a big smile, Jack. So,
well, I've had bad luck the last 2 Grand Tours in the Tour de France, and I feel as though I'm a bit cursed at the moment, which is a bit annoying because all the times I kind of feel as though it wasn't really my fault or my mistake, and it was kind of just a bit of bad luck. And I'm still here at the Giro. I'm more or less healthy and okay, just a bit sore and bruised and sad, but it's okay. We go on, there's still plenty more of the Giro to go.
Some stage hiding maybe, mate.
Well, try and get some recovery first, and then I'm not sure where Damiano is on GC, but also try and help him, and then, yeah, there's plenty more opportunities in the final week, and just have my fingers crossed for a bit more sunshine.
Good luck, mate.
Thanks.
C'était votre journal des sports à retrouver sur toutes les plateformes. Vous retrouvez le prochain journal demain avec Jean-Noël Lucas.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Tout de suite, c'est l'heure de notre rétrospective sur SBS. Aujourd'hui, Valentine Saboureau nous donne rendez-vous en 1932 et c'est un voyage qui va durer près de 20 heures. C'est le premier vol transatlantique en solo réalisé par une femme, par Amelia Earhart. Récit avec des extraits de la chaîne Toute l'Histoire et les archives de l'époque.
When I was a little girl, I'd spend hours just dreaming that someday I would go to strange, faraway places.
Miss Amelia Earhart.
Why do you want to fly?
I want to be free.
Vous venez d'écouter un extrait du film Amelia, retraçant la vie de l'héroïne dont nous allons parler aujourd'hui. De qui s'agit-il? D'une aviatrice de légende qui se lance le 20 mai 1932 dans une aventure aussi périlleuse qu'audacieuse, la traversée de l'Atlantique en solo. Un voyage qui ne va pas aller sans mal, mais qui restera pour toujours dans les annales. Née le 24 juillet 1897 dans le Kansas, Amelia Earhart est une jeune fille de bonne famille qui contredit tous les plans de sa mère. Destinée à devenir une parfaite lady victorienne, elle s'engouffre dans une voie différente, poussée par un caractère aventureux et une volonté farouche de ne pas se limiter aux carrières réservées aux hommes. Sa passion pour l'avion, elle la découvre lors d'un baptême de l'air effectué en 1920 à Long Beach. Elle dira plus tard « Dès que nous avons quitté le sol, j'ai su que je devais voler ». Margaret Simpson, directrice au Musée des sciences et des arts appliqués, raconte pour toute l'histoire.
Il fallait être une femme indépendante et fortunée pour pouvoir se payer des leçons, s'acheter un avion et l'entretenir. Amelia a donc cumulé les emplois. Elle était polyvalente, très créative et extrêmement aventureuse. Elle savait parfaitement que c'était ce qu'elle voulait faire de sa vie.
Elle se donne ainsi les moyens de se payer des cours avec la pilote Netta Snook et, en travaillant d'arrache-pied, y compris comme camionneuse, elle réussit à acheter son premier biplan d'occasion de Canaries. En 1923, elle est la 16e femme à obtenir son brevet de pilote. Le 20 mai 1927, Charles Lindbergh effectue le premier vol transatlantique solo, reliant New York à Paris en 33h30. L'année suivante, un voyage similaire est effectué et Amelia y participe en tant que passagère. Il lui apportera cependant la renommée, mais pas question de s'en contenter. Elle veut prouver qu'elle a les ressources et le talent pour faire ce trajet elle-même. Le départ est organisé 5 ans jour pour jour après celui de Lindbergh. Le décollage a lieu à Harbour Grace dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada. Son avion est un Lockheed Vega B5.
Pour l'époque, l'avion était très moderne, mais il n'avait pas de radio, pas de GPS évidemment, pas de données météo, pas de radar. C'était sans conteste un vol pionnier pour les liaisons transatlantiques.
Sur les images de l'époque, on voit une longue jeune femme aux cheveux courts, pommettes hautes et yeux rieurs, dont la ressemblance avec le petit prince de Saint-Exupéry est stupéfiante. Entourée par une petite foule de locaux, elle s'engouffre dans le cockpit à 19h30. 3260 km plus tard et après 19h56 de vol, elle atterrit enfin, mais pas à Paris comme prévu. Elle se pose en effet dans le champ d'un fermier irlandais à Culmore. Elle a réussi son pari, malgré de grosses difficultés techniques et pas mal d'intempéries qu'elle raconte ainsi dans les archives de l'époque.
I had fair weather for 4 hours. Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in. I milled around in the storm here for probably an hour, and with difficulty kept my course. I had been troubled with my exhaust manifold burning through all night. A weld broke shortly after I left Harbor Grace, and I could see the damage increasing as the night wore on.
Elle reçoit la Distinguished Flying Cross américaine et la Légion d'honneur en France pour son exploit. Elle continuera à voler toute sa courte vie, puisqu'elle disparaîtra en 1937, alors qu'elle tente un tour du monde par l'Est sur son Lockheed Electra, en compagnie de son navigateur Fred Noonan. Elle a 39 ans seulement.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS pour la première fois Osman Boubakari, qui est le nouveau directeur de l'Alliance française de Canberra. Bonjour et bienvenue sur les ondes.
Bonjour Jean-Noël.
Peut-être d'abord, présentez-vous et parlez de votre parcours professionnel au sein des Alliances françaises.
Oui, en fait je m'appelle, comme vous avez dit, Osman Boubakari. Je suis originaire du Cameroun, qui est tout un petit pays de l'Afrique centrale. Francophone, donc. Une fois, je ne suis pas français, qui a été appointé comme directeur de l'Alliance française ici en Australie. Parce que, comme vous le savez, on peut en fait expliquer ceci. Le réseau Alliance française, c'est un réseau qui est attaché à la Fondation et répond par nature à deux missions, qui sont les missions principales de pédagogie de la langue française et bien évidemment de la culture française. Donc de ce coup, l'Alliance est rattachée un peu dans sa mission diplomatique et aussi dans la mission de la propagation de la culture française et attachée à la culture du côté des relations extérieures. Donc pour ce coup, les précédents directeurs d'Alliance sont des nommés qui viennent pour des périodes de plus ou moins de 3 à 4 ans. Pour asseoir la politique des alliances qui consiste bien sûr à la promotion de la langue française, l'éducation de la langue française, comme je l'ai dit. Donc, une fois, n'est pas coutume, mais on a trouvé qu'il faut que les alliances aussi puissent s'imprégner des cultures locales, s'il faut le dire. Voilà comment j'ai été choisi pour porter cette mission d'éducation de la langue française. Mais c'est toujours en collaboration, bien sûr, avec la représentation française, le support des autres alliances qui ont toutes les directeurs qui sont des expatriés et qui travaillent dans ce sens. Mais la Fondation est en fait stratégique dans la mission qu'elle nous assigne et puis on travaille et on en fait chacun un développement opérationnel, financier. Mais c'est ces organismes qui sont autonome, non pour profit, comme on dit en anglais. Et ici à Nesiti, l'Alliance couvre les zones jusqu'au niveau de Kumbien et d'autres petites zones qui sont autour de Nesiti. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvé à l'Alliance. Mais j'ai fait mon parcours, il faut le dire, francophone. J'ai étudié dans mon Cameroun natal en français. J'ai fait un cycle de baccalauréat et une licence avant de me rendre du côté de la métropole en France, où j'ai fait mes études universitaires. Et puis, j'ai pu continuer en Australie et migrer il y a une vingtaine d'années. Et j'ai travaillé dans d'autres administrations qui sont les administrations australiennes, et puis des consulting ou des boîtes de conseil. Et jusqu'à mon dernier, ma récente nomination à la tête de l'Alliance de Canberra. Donc, je réponds à un board qui est le board, le comité exécutif de l'Alliance ici à Canberra, qui est local. Et à la tête de cela, nous avons Hugues Chevron-Breton, qui est le président de ce comité.
Ouais.
Et nous travaillons en collaboration avec l'ambassade. Donc, la bonne chance que nous avons, nous, c'est d'être épaulés par l'ambassade dans nos projets d'événements et culturels. Et nous essayons d'organiser en engageant bien évidemment le cours australien. Et notre cible principale, c'est les écoles de nature francophone comme Tilopia et Narabonda et une communauté francophone et française. Donc ma mission en fait principale, c'est de ramener les deux. C'est-à-dire la communauté française qui existe à Canberra et la communauté francophone à travailler dans ces objectifs qui est la promotion de la langue française. Et je pense que elle sera bien évidemment supportée au vu et des missions spécifiques de la Fondation Alliance dans le monde.
On profite de l'occasion pour peut-être parler des événements à venir à Canberra en ce mois de mai.
Samedi 20 mai, nous avons une conférence ici à Canberra et puis au niveau des alliances, chacune de nous. On tiendra une conférence sur le thème de la propagation encore de la culture française. Mais bien évidemment, cela se poursuivra avec d'autres événements qui seront plus ou moins dans le mois de juin et le mois de juillet, et en particulier la fête de la musique et Bastille Day, qui s'appelle Bastille Day, le 14 juillet. Donc, c'est des événements qui sont en fait, qui vont partir de notre calendrier, comme j'ai dit, un calendrier annuel qui est arrêté en début d'année. Et cela commence avec le festival français, le film français qui venait de s'achever au mois de mars. C'est le plus grand événement quand même du film hors de la France. Nous avons cette chance en Australie d'être le plus grand festival du film qui est organisé hors de la France et qui attire environ 250 000 personnes pré-COVID. Et nous sommes repartis de très belles après la période de COVID, où nous avons atteint cette année environ 220 000 rentrées. Donc cela, c'est la principale activité que nous avons durant l'année, et suivi des autres petits événements comme la fête de la musique que j'ai mentionné, et d'autres activités plus ou moins attractives comme le marché européen, le marché de la francophonie, qui vient de se dérouler aussi fin du mois de février. Et voilà.
Et donc, j'imagine qu'après le Festival du film français, les activités régulières reprennent chez vous au sein des locaux de l'Alliance française de Canberra, comme le ciné-club, le book-club, les conversations et tout ça?
Oui, le ciné-club, le book-club, comme vous l'avez dit, et puis bien évidemment les soirées movie. On appelle ça les movie-clubs, en partenariat parfois avec les universités comme ENU qui ont un grand ciné-club, nous partageons le locaux. Et bien évidemment, au sein de l'Alliance aussi, nous avons pour habitude d'organiser des movie nights pour les jeunes des écoles françaises, et suivi des discussions, bien évidemment, sur des thèmes comme l'environnement et plein de choses. L'un des trucs que nous avons travaillé dessus l'année dernière, c'était sur le fake news, par exemple, l'impact du fake news sur la jeunesse et sur la communauté, en fait, même. Comment est-ce que cela est perçu? Qu'est-ce que c'est que le news? Et cela avait été bien évidemment épaulé par l'université encore des ENU, qui est notre partenaire de choix, et avec des médias tels que ABC et autres news channels, pour que nous puissions un peu amener les enfants à comprendre l'importance de l'information, la nature de l'information, qu'est-ce que c'est qu'une information, qu'est-ce qui n'est pas une information. Cela a vraiment été très bien perçu par la communauté. Donc, en fait, nous sommes là pour servir la communauté, comme je l'ai dit. C'est non-for-profit, mais bien évidemment ciblé, pour que aussi cette langue française, qui est une langue vivante et riche, puisse être assimilée et bien, puisse être comprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette perception, ou bien cette idée que le français n'est plus la langue qu'elle fut jadis. Ben nous sommes là pour dire, écoutez, on a une membership quand même, qui ne cesse pas de ça, qui ne cesse de s'agrandir. Il faut juste plutôt pérenniser les actions telles que ces activités que vous avez su évoquer dans le quotidien des Australiens. Oui, l'Australie, c'est loin, mais l'Australie, c'est aussi cela. Moi, je suis en Australie depuis une vingtaine d'années, comme je le disais.
Oui.
Et j'ai fait une vie, beaucoup de Français de plus en plus découvrent l'Australie et trouvent comme une destination de choix pour s'immigrer. J'ai fait 4 enfants qui sont nés tous ici en Australie. Ils sont passés par des écoles françaises. Et nous avons eu la chance d'être dotés de bonnes écoles françaises ici à Canberra, comme Tilopia, Narrabonda. Ça commence même dès le bas âge avec FAPS, qui est le French Australian Preschool, jusqu'au niveau secondaire. Et on peut faire le baccalauréat français. Et si on veut bien évidemment continuer ses études hors de l'Australie, vraiment, il n'y a pas mieux que passer par l'Alliance française. Et c'est là, en fait, que j'aimerais un peu préciser et faire cette précision très importante, c'est que la communauté française devrait s'associer à l'Alliance française. Et ce serait vraiment mon souhait de voir plus de participation des Français eux-mêmes et de rendre cela comme une maison française, mais aussi, bien évidemment, pour nous qui sommes aujourd'hui engagés à travailler, servir l'Alliance, de l'ouvrir à la communauté tout entière australienne pour qu'ils puissent participer et trouver ce que nous avons trouvé dans la langue française, c'est-à-dire un épanouissement et surtout un savoir du monde européen et qui est une connaissance universelle en fait de la culture et du savoir-faire aussi.
Et j'imagine que les cours du deuxième trimestre vont bon train chez vous depuis quelques semaines.
Oui, les cours du deuxième trimestre ont bien commencé, sont à la troisième semaine ici à Canberra. Mais cela dépendra peut-être des régions, parce que Melbourne, Sydney, ils ont des calendriers différents. Mais nous, à Canberra, nous sommes bien partis pour la troisième semaine. Et les thèmes, généralement, c'est des thèmes de 10 semaines. Et on s'aligne, bien sûr, avec les calendriers scolaires australiens pour permettre aux enfants francophones qui participent à des écoles australiennes, qui sont des jeunes, par exemple, puissent aussi participer à nos classes. Donc, nous avons aussi, entre ces périodes de trimestre, nous avons aussi des cours, des summer camps, Easter camp et d'autres choses, parce que nous fonctionnons durant l'année scolaire, quoi. Pour question de budget, pour question de fonctionnement, bien évidemment, pour aligner aussi, pour s'aligner aux besoins des parents, parce que les parents, durant les vacances, trouvent que c'est aussi mieux qu'ils amènent leurs enfants pour qu'on puisse renforcer leur connaissance de la langue française.
Osman Boubakari, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS.
Je vous en prie.
On vous souhaite les meilleurs vœux pour les projets que vous avez pour l'Alliance française de Canberra. Et à très bientôt sur SBS en français.
C'est nous qui vous remercions. Et puis n'hésitez pas à n'importe quand à nous saisir quand vous avez besoin peut-être d'une information concernant notre alliance.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup et bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et bien aujourd'hui, on a le plaisir dans les studios d'avoir Serge Thoman, notre ami Serge Thoman avec nous. Bonjour Serge.
Bonjour Christophe.
On va parler d'un homme qui vous tenait particulièrement à cœur, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Particulièrement à cœur puisque c'était un ami à vous. C'était aussi le fils de Mirka Mora, William Mora, décédé. Je pense que l'Australie perd un de ses grands ambassadeurs de l'art et surtout de la relation France-Australie également.
Et de l'art aborigène aussi. Mm-hmm. Donc William, c'était le fils de Mirka Mora et Mirka était un peu comme ma maman. Je la traitais un peu comme, c'est une maman spirituelle. Et donc automatiquement, son fils était un peu comme mon frère. Et malheureusement, il est décédé il y a une quinzaine de jours, mm-hmm. après avoir souffert du cancer du poumon pendant 3 ans.
D'accord.
Il est parti, finalement, il est parti assez vite. Mais c'est un grand vide, non seulement pour moi et sa famille, Il a trois enfants, dont une fille qui a 12 ans, qui est ma filleule. Mm-hmm. Mais c'est une grande perte pour le monde de l'art parce qu'il a une connaissance de l'art moderne australien et surtout de l'art aborigène que personne n'a. Oui. Par exemple, quand il représentait un artiste, il a fait des expositions d'art aborigène avec des artistes, des shows solo, alors que ça n'arrivait pas avant, c'était plutôt des shows de galeries et autres. Et il rencontrait toujours l'artiste avant de faire un show et en allant dans les communautés aborigènes pour les rencontrer, les voir travailler et ensuite d'essayer de les faire venir pour l'ouverture de l'exposition.
Alors on sait que sa galerie va lui survivre, sa galerie William Mora Gallery, c'est important. Important parce que c'est, comment dire en anglais, it's a lifetime of work, ça a été sa vie, il a dédié sa vie à cette galerie en gros, en tout cas à cet art. Ça a commencé avec sa maman et puis comme vous l'avez dit, il a grandi et il a pris des épaules beaucoup plus grandes dans le monde de l'art australien. Si on fait juste une aparté aujourd'hui, on va parler en tout cas au début de la relation avec sa mère. Mirka Mora était tellement importante, il a su préserver l'image et l'aura de Mirka après son décès.
Absolument. Et comme disait Mirka, la meilleure chose qu'elle ait faite, c'est qu'elle a donné qu'un de ses enfants était son art dealer. Donc,
ça restait dans la famille.
Ça là. Donc, William, effectivement, pendant plus de 30 ans, a représenté Mirka, à la fois pendant sa vie. Et Mirka, elle est décédée en août, ça va faire 5 ans. Donc, le temps passe vite. Mais depuis la mort de Mirka, l'art de Mirka est beaucoup plus reconnu et je sais que je ne peux pas dire qui, mais une des personnes les plus importantes dans le milieu des arts en Australie m'a dit un jour que Mirka, le jour où elle ne sera plus avec nous, vu qu'elle faisait toujours ses petites conneries, montrer sa culotte, etc., etc., montrer sa poitrine et autres. Le jour où elle ne sera
plus. J'ai eu la chance d'assister à ça, c'est vrai.
Voilà, c'est ça.
Reste un moment incroyable.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, elle m'a montré ses fesses plusieurs fois. je suis troublé encore. donc cette personne disait que le jour où Mirka ne sera plus là à faire ses bêtises, et les gens ne regarderont que son art va vraiment être pris au sérieux et Mirka va éventuellement, et c'est sur le point de devenir d'être l'artiste féminine la plus importante en Australie du XXe siècle.
Et William est un des artificiers, entre guillemets, de ça, parce qu'il a pu préserver cette image. Et vous le disiez, après sa mort, il y a 5 ans, donc ça a été possible après de conserver, de comprendre encore mieux l'art de Mirka après.
Absolument. Et donc, le plan qu'il avait, c'était d'avoir un musée Mirka Mora, et potentiellement à Heidi. Malheureusement, il ne le verra pas. Mais c'est pas parce qu'il n'est plus là que c'est quelque chose qui n'arrivera pas.
Donc, et d'ailleurs, si vous voulez aller comprendre le monde de Mirka Mora, c'est super important d'aller à Heidi.
Absolument.
Le Heidelberg Museum, il est incroyable pour la préservation. Il y a énormément d'œuvres de Mirka qui sont
absolument. Et donc, et Heidi, au départ, c'est le mari de Mirka, Georges, c'est lui qui a été la première personne qui a monté le musée à Heidi. Et c'est une belle balade,
c'est un jardin extraordinaire.
Voilà,
c'est un jardin incroyable,
15 kilomètres du centre de Melbourne, donc c'est pas très loin. Puis on peut le café a été repris par le Marlborough Group et maintenant c'est très très bien. Et puis le magasin aussi, ça a été Draw a repris le magasin, donc c'est
on trouve pas mal de choses de Mirka d'ailleurs au magasin. Il y a pas mal d'artifices, on va dire, de Mirka. À quel point William, vous l'avez dit, il va vous manquer à vous, mais sur la scène de l'art indigène, donc des arts premiers, on sait qu'on est vraiment à la croisée des chemins, peut-être dans l'acceptation de la culture première en Australie. Il y a des choses qui devraient changer, en tout cas ça va dans ce sens, on l'espère. À quel point lui, il aurait adoré voir ça?
Ce qu'il y a, c'est qu'il était là. Moi, je sais que moi, le jour où j'ai rencontré William, donc j'ai rencontré Mirka en premier, donc je vis à Saint-Kilda, Mirka était à Saint-Kilda, et J'avais toujours dans la tête que Mirka soit décoré par le gouvernement français des arts et des lettres. Et donc, quand j'ai rencontré Mirka en décembre 95, et quand la galerie a réouvert début février 96, je suis allé voir William pour en parler avec lui. Et il venait de recevoir des œuvres de Emily Kaye Munwari, donc qui est la femme aborigène la plus importante, l'artiste. Et il venait juste de recevoir les toiles, elles n'étaient pas montées, et il les mettait au mur avec des agrafes pour les regarder. Et j'ai dit, ben, celle-là, c'est superbe, je l'achète. J'avais aucune idée de ce que c'était, donc, et je l'ai acheté. Il m'a dit, je ne veux pas l'acheter tout de suite parce qu'il y avait, il y avait deux, trois musées qui avaient la priorité au niveau des achats. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette œuvre. Mais il a réussi à découvrir des artistes. Il a représenté la Paddy Bedford Estate également. Donc il a fait des shows avec Rover Thomas et plein d'autres. Et je crois que la communauté aborigène et les différentes galeries, parce que d'abord c'était quelqu'un d'honnête.
Entier. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à maintes et maintes reprises. C'est quelqu'un d'entier. Il était passionné, amoureux de l'art, tout simplement.
Absolument. Et non seulement de l'art, mais des artistes. Et donc, ce qu'il faisait, c'était effectivement, il avait toujours en tête le futur d'un artiste. Ce n'était pas juste l'exposition qu'il allait faire en mai 80, en 2023, mais il regardait déjà de faire une exposition en juin 2025. Sachant qu'elle allait construire sur l'exposition qui a lieu en ce moment.
J'ai eu l'honneur d'ailleurs de le rencontrer avec vous. Il m'a autorisé un tatouage. Il faut qu'on en parle. Mais il m'a autorisé un tatouage d'une œuvre de Mirka Mora.
Voilà, on va juste la trouver.
Il faut juste retrouver la bonne.
Il faut trouver la bonne. Ma Mirka faisait tous les jours, elle faisait des encres de Chine.
Oui, on va partir là-dessus plutôt que les gros traits.
Voilà, on va regarder ses cahiers et on va trouver.
Incroyable.
On va trouver quelque chose d'approprié.
Incroyable, incroyable. Il y avait cette relation particulière entre donc, la mère et le fils. Puisque la galerie était à l'étage du dessous de l'appartement de chez Mirka. Donc en fait.
À côté.
C'était à côté. De mémoire, c'était en dessous.
Non, c'était à côté.
Ils étaient vraiment voisins, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc elle pouvait. Il y avait juste une porte. Et la galerie, ou disons.
Et dans un sens et dans l'autre, hein, d'ailleurs.
La galerie, disons, le studio de Mirka, hein, fait partie de la Mirka Mora Estate, qui est dévolue à Mirka. Et donc il y a toujours des œuvres et des pièces qui est donc. Et quand quelqu'un veut acheter une œuvre de Mirka Mora ou autre, il y a toujours dans des œuvres qui sont là, dans la galerie, à côté, donc dans un espace dévolu à Mirka, à côté de la galerie.
Comment on va se souvenir de William? Parce qu'il a vraiment laissé une empreinte sur l'art australien, une empreinte beaucoup aidée par sa mère, bien sûr, mais il a fait son empreinte à lui, comme vous le disiez. Est-ce que le travail de William Mora restera dans les années à venir?
Je crois que les gens vont retenir, c'est son intégrité, son honnêteté, sa passion pour l'art et les artistes. Et finalement, il était intéressé pour tous les autres, pour tous les gens autour de lui. Et en particulier, il avait une passion. Il est né en Australie, donc Mirka est venu en Australie avec son premier fils, qui était Philippe, qui était un bébé quand ils sont venus en Australie en 51. Et donc William est né, c'est le deuxième garçon de la famille. Mais il a passé les 10 dernières années de sa vie, il a rencontré une femme pour son deuxième mariage, qui vivait à Paris, qui était australienne, disons de parents australiens, mais qui vivait à Paris. Et donc, à la fin, il passait la moitié de son temps entre la France et l'Australie. Et ça lui a permis d'être effectivement, comme vous l'aviez dit avant, un trait d'union entre les deux pays à travers les artistes qui travaillent et qui montrent, qui donnent à l'Australie une si belle image.
Merci Serge d'être passé nous rappeler à quel point William Mora était important et juste peut-être prendre une petite dizaine de minutes pour se souvenir et de penser à la mémoire de William et de ce fait aussi de penser à la mémoire de Mirka. Merci Serge.
On va normalement on a eu l'enterrement la semaine dernière, mais on va avoir une célébration de sa vie à Heidi plus tard dans l'année.
D'accord, merci Serge.
Avec plaisir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tout de suite, le rappel des titres de ce samedi 20 mai. Le Premier ministre Anthony Albanese est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées de logements publics dans l'état du Victoria. Et avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement un sommet de la Ligue arabe. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous sur SBS, votre programme en français. Demain, vous retrouverez à partir de 1h, heure de Melbourne, Jean-Noël Ducasse pour 1h d'émission. Vous pouvez retrouver tout le contenu de votre programme en français sur le site internet de SBS et également sur toutes les plateformes. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi, un excellent week-end. À très bientôt.